Merci Johan pour cette première partie. Un nouveau départ, une nouvelle étape dans notre vie, une nouvelle page qui s'ouvre à la suite d'une autre qui se ferme, qui n'a jamais eu envie ou même le sentiment d'entrer, de vivre une nouvelle étape, une nouvelle période de sa vie. Un sondage en 2018 disait que environ 78% des Français pensaient à changer de vie. Quand on leur demandait de quelle manière ils voulaient changer de vie, la plupart voulaient déménager et s'installer ailleurs de l'endroit où ils étaient. Environ 59% des sondés ont pu dire ça. Et cela allait les aider à mieux s'épanouir ce changement de vie. Et la période que nous continuons de vivre, mais qui, je l'espère, touche à sa fin actuellement, avec la crise sanitaire, les confinements successifs, la généralisation du télétravail n'a fait, à mon avis, qu'amplifier cette envie de changement de vie. J'ai l'impression que beaucoup de nos amis, beaucoup de nos contemporains, ont ainsi pris le moment du confinement comme un instant de remise en question, de nouveau départ et de changement de vie. Soit par un changement de travail, un changement de lieu de vie, ou pour certains, un retour aux sources, un retour à la campagne. Plus que simplement amplifier ces envies qui étaient déjà présentes, cette période a poussé les gens à franchir le cap et à s'en aller de l'endroit où ils étaient, pour aller s'installer dans des zones plus rurales. Les chiffres de l'immobilier actuel ne font que bondir au niveau des achats de maisons, notamment dans les zones les plus rurales. Et en dehors de cette période de confinement et de coronavirus que nous connaissons maintenant, je pense que nous vivons tous des périodes dans nos vies de changement, des périodes d'entrée dans une nouvelle saison de nos vies. On a l'impression que des choses changent. On peut donner des exemples, un déménagement, un début de stage pastoral dans l'église libre de Gobert, ou parfois un passage à la retraite, un changement de travail, un changement de pasteur dans l'église, ça peut arriver aussi. Tant d'événements viennent rythmer nos vies, en fait, et nous faire rentrer dans des nouvelles saisons. Et ces changements sont parfois choisis, mais parfois c'est les circonstances qui les imposent, qui imposent ce nouveau départ. Alors comment vivre ces périodes de nouveau départ? Comment les traverser? Le peuple d'Israël a lui aussi vécu des périodes de grands changements au cours de son histoire, et notamment autour de l'an 600 avant notre ère, au moment de son exil. Ce moment où le royaume de Babylone a décidé d'envahir Jérusalem, et par son roi Nabucodonosor, ils ont envoyé en exil à Babylone une partie du peuple, et notamment les personnes les plus haut placées. Et c'est ce que nous pouvons lire notamment dans certains livres de l'Ancien Testament, tels que Daniel ou Jérémie. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de lire dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, les versets 1 à 14. Jérémie 29, les versets 1 à 14, si ça veut bien fonctionner. En tout cas, c'est à ce moment-là, en fait, dans ce chapitre 29, c'est un moment où Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Jérémie, qui lui est resté à Jérusalem, va adresser une lettre aux personnes qui sont en exil. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsistaient en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes, à tout le peuple que Nabucodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. La lettre fut envoyée après le départ du roi Yéconia, de la reine mère, des fonctionnaires du palais royal, des ministres de Juda et de Jérusalem, des artisans et des forgerons, par l'intermédiaire d'Eléassa, fils de Saphan, de Gemaria, fils d'Ilkia, de Sédécias, roi de Juda, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone, à Nabucodonosor, roi de Babylone. La lettre disait « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons, installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur. Car de son bien-être dépend le vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez. Car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai au milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés, l'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. » Jusqu'ici notre lecture. Plaçons-nous un instant à la place du peuple exilé quand il reçoit cette lettre. Il est dans un pays étranger, déporté de force là-bas. Le temple de Jérusalem, le lieu où demeure la présence de Dieu, de leur Dieu, a même été détruit par Nabucodonosor. Le peuple doit être sûrement déprimé. Il doit se sentir aussi abandonné par Dieu. Pourquoi le Seigneur aurait-il permis que son peuple bien-aimé soit envoyé en exil, loin du pays qu'il avait promis à leurs ancêtres en Égypte, loin du temple, loin de sa présence? Ils pouvaient se demander, est-ce la fin, tout simplement, de l'Alliance? Et est-ce qu'ils vont-ils bientôt pouvoir revenir, même, à Jérusalem, comme semblent le prédire les prophètes, on apprendra qu'ils sont faux, qui sont présents parmi eux? Je pense que toutes ces questions devaient tourner dans leur esprit, dans la tête des exilés, et sûrement être accompagnées d'un mélange de peur, en se demandant « mais qu'est-ce qu'il va nous arriver ?» et de colère même contre Dieu, en se disant « mais pourquoi ce Dieu qui nous a promis tant de choses nous abandonne ?» Et je pense que nous aussi, dans nos vies personnelles, nous pouvons le sentir parfois, ce mélange de peur et de colère, suivant les circonstances qu'on traverse, face à la perte d'un emploi, la maladie, face au confinement aussi qu'on a pu vivre, ou face à tant d'autres circonstances. Face à ces interrogations, Jérémie rappelle au peuple, dès la première phrase de la lettre, que malgré la destruction du temple et l'exil, le Seigneur est et reste le Dieu d'Israël. Il reste leur Dieu. Mais une chose peut sembler étonnante à ce moment-là. Dans le même temps, Dieu va exprimer que c'est lui qui les a exilés. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Ça peut sembler étrange quand même. Le Dieu d'Israël, le Dieu de leurs ancêtres, a décidé de les déporter en utilisant en plus la main de leur ennemi avec lequel ils sont en guerre depuis quelques années, Nabucodonosor. Et ce, alors même que c'est lui, ce même Dieu, qui avait permis à son peuple de rejoindre le pays promis, comme nous le lisons dans le livre de l'Exode. C'est ce même Dieu qui les envoie en exil, finalement. Mais ce qu'on voit derrière tout ça, c'est que le Seigneur reste souverain de cette situation. C'est lui qui est aux commandes de la situation dans laquelle est le peuple. Et même si le peuple ne la comprend pas, cette situation, il reste souverain dans la défaite du peuple qui s'est détourné de lui, alors même que par la voix de ses prophètes, il les avait prévenus que cet exil allait arriver. Et contrairement finalement au reste de l'histoire de l'Ancien Testament, le mouvement n'est pas dans le même sens. Dans le reste de l'Ancien Testament, le mouvement va d'un endroit vers Jérusalem, vers la terre promise, comme lors de l'Exode, lors de la conquête du pays de Canaan. Mais cette fois-ci, le mouvement va de Jérusalem à Babylone. C'est comme si, par ce jugement de condamnation, car l'exil est une condamnation de Dieu sur le peuple faisait lui-même un retour en arrière, un retour à la case départ. Et c'est ce retour à la case départ qui est demandé et même imposé par Dieu à son peuple. Et on le voit notamment dans les versets 5 à 7, avec les verbes qui y sont utilisés. Installez-vous-y, plantez, mangez, mariez-vous, multipliez-vous. Tous ces verbes viennent montrer que Dieu désire que les exilés s'installent vraiment à Babylone, qu'ils y vivent, qu'ils deviennent résidents, qu'ils démarrent une nouvelle vie, et ce, malgré leur statut d'étranger dans cette ville. Et ces verbes utilisés ont dû avoir une résonance encore plus forte pour le peuple. Le peuple connaît les textes de la Bible, les textes de l'Ancien Testament, et ces verbes, multipliez-vous, mariez-vous, etc., peuvent rappeler au peuple la création. Dieu, au moment de la création d'Adam et Ève, donne un mandat, une mission à Adam et Ève de se multiplier. Mais aussi, il peut y avoir un lien avec la promesse de Dieu faite à Abraham, en Genèse 12 et en Genèse 17, où Dieu appelle Abraham, enfin, où Dieu dit à Abraham que sa descendance va se multiplier. Or, ces ordres et ces promesses de Dieu qui étaient présentes au début de l'histoire sont toujours présentes et restent les mêmes au moment de l'exil. Le Seigneur reste le Dieu de son peuple, où qu'il soit. Je répète, le Seigneur reste le Dieu de son peuple, où qu'il se trouve. Il lui propose même dans l'exil, période de jugement, de condamnation, non pas finalement un retour en arrière, comme le peuple a pu le comprendre, mais un nouveau départ, une nouvelle route avec Dieu, basée sur ses promesses et son alliance. Dieu avait annoncé à Abraham que sa descendance serait une bénédiction pour les nations. Et je pense que Jérémie ne l'a pas oublié. Il le rappelle au peuple, à la descendance d'Abraham justement, qu'il est important que même en exil, il recherche le bien de la nation dans laquelle il est déporté. Ce bien passe par le fait de vivre pleinement au milieu de cette nation, mais aussi par la prière pour cette dernière. Je me mets à la place du peuple, avec tous les questionnements qu'on a déjà pu évoquer. Prier Dieu en dehors du pays promis, en dehors même du lieu de sa présence, il devait se dire « non mais c'est impossible de faire ça ». Et en plus de ça, Jérémie les invite à prier Dieu pour Babylone, pour leur ennemi. Ça devait être vraiment encore pire dans l'esprit du peuple de s'imaginer prier pour Babylone. Mais Dieu, par la voix de son prophète, insiste. C'est important pour leur bien-être personnel de faire ça. Au cœur même de ce jugement, de cette condamnation qu'est l'exil, le peuple est invité à être un modèle, à être un vecteur de bénédiction pour les nations. Ce nouveau départ vient transformer le peuple condamné, exilé, en un peuple missionnaire. Et nous, chers amis, ne nous trouvons-nous pas un peu comme le peuple d'Israël en exil ? Nous sommes, et nous le savons, citoyens du royaume de Dieu. Nous pouvons parfois nous sentir comme étrangers dans la cité qu'est le monde, en décalage avec les lois de notre pays, mais aussi en décalage avec les désirs, les envies les plus profondes de nos contemporains qui ne croient pas en Dieu. Et il serait facile pour nous, et pour moi le premier même, de n'être qu'entouré que d'amis chrétiens finalement, sans me soucier des autres, de ceux qui ne croient pas. Sommes-nous présents pour faire le bien pour nos voisins, pour nos connaissances, pour notre pays, pour notre monde? Prenons-nous le temps de prier pour lui? Arrivons-nous à y être missionnaires, comme Dieu le demande finalement, à son peuple exilé? C'est vraiment le message de cette première partie de lettre qui nous encourage, comme ça a encouragé le peuple à être ces missionnaires au cœur du pays où nous nous trouvons. Et Christopher Wright dit dans son commentaire de Jérémie que le rôle du peuple de Dieu, au milieu d'une telle réalité, est toujours de prier et de rechercher le bien de la population au milieu duquel il vit, même si nous sommes conscients que les peuples de toute nation, de toute culture, nous y compris, sont sous le jugement de Dieu. Et c'est à ce propos, à propos de jugement de Dieu, Jérémie rappelle que même si l'exil va durer, contrairement à ce que disaient les faux prophètes présents à Babylone, au bout des 70 années de domination qui sont données à Babylone, cette nation, elle aussi, sera vouée au jugement et à la destruction. Et à ce moment-là, l'exil sera terminé. L'exil ne sera que temporaire. Les exilés reviendront à Jérusalem. Ainsi, dans le cadre de ce jugement de condamnation, apparaît aussi un autre jugement, un jugement de grâce et d'espérance pour le peuple, un jugement de grâce et d'espérance donné par Dieu. Et c'est le sens du verset 11, ce verset qui est d'ailleurs tellement connu. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Ce verset ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille, que si l'on croit en Dieu, lui, le maître de nos projets, tout se passera à merveille. Cela ne veut pas dire qu'en mettant notre foi en Dieu, nous vivrons toujours dans le bonheur. Je suis désolé de vous annoncer ça. Sur un petit nuage. Je pense que le passage au milieu duquel ce verset se trouve nous le montre bien, et ce que nous avons vu jusqu'à maintenant nous le montre bien. Il rappelle que Dieu a des projets de paix pour son peuple et lui prépare un avenir quel que soit sont présents, quelles que soient les difficultés dans lesquelles il est, quelle que soit la condamnation dans laquelle il est. Et cette paix, c'est la paix, en hébreu le shalom, qui vient de Dieu. C'est une paix qui surpasse toute colère, toute détresse, toute peur et tout malheur, même si nous sommes invités par moments à vivre de la détresse, des peurs et des difficultés. Quelle promesse inattendue au milieu de cette condamnation qu'est l'exil. Même au milieu de ce jugement, le peuple peut avoir de l'espérance dans la grâce et la bonté de ce Dieu souverain qui connaît son plan pour eux. Ses projets ne sont pas vagues. C'est ça la bonne nouvelle. Les projets de Dieu ne sont pas vagues, mais ils sont assurés en lui. La condamnation est transcendée par l'espérance et la promesse de Dieu. Et cette promesse de Dieu amène le peuple à le chercher. Comme disait Johan tout à l'heure, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Dieu fait à nouveau ce premier pas avec cette promesse. Et ce premier pas doit amener le peuple à le chercher. Et c'est peut-être là le plus grand nouveau départ auquel Dieu appelle son peuple. Ces projets de paix, cette promesse, amènent une réjouissance au peuple. Mais cette réjouissance, ce n'est pas une réjouissance béate ou simplement un soulagement du type « Super, Dieu nous a dit, tout va s'arranger, bon, on peut aller festoyer et manger ça, on peut aller manger tous ensemble, hein, tout va bien. » Non, au contraire, Dieu continue à les pousser vers un nouveau départ par ses promesses. Il demande au peuple une transformation intérieure, un retour à lui. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez et je me laisserai trouver. C'est une réponse à cette annonce de grâce au milieu de la condamnation que Dieu demande à son peuple. Une réponse est demandée au peuple. Et nous dans tout ça. On pourrait se dire, ce passage concerne quasiment uniquement le peuple exilé. Mais si on y réfléchit un peu, ne sommes-nous pas un peu comme le peuple d'Israël, loin de Dieu, en quelque sorte exilé, loin de lui, quand nous manquons le but, quand nous péchons, quand nous nous éloignons de lui? Nous méritons la même condamnation finalement que le peuple. Et nous le savons que nous méritons cette condamnation. Et Johan l'a rappelé tout à l'heure en parlant de cette grâce qui vient. Et c'est là où Dieu, par sa volonté et l'œuvre de Jésus à la croix, nous a donné accès au pardon pour nos fautes, à ce jugement de grâce qui surpasse toute condamnation qui pourrait peser sur nous. Et comme Israël exilé, qui était dans l'attente de son retour en terre promise, nous aussi nous avons une attente, une espérance, l'espérance d'un retour. Pour le coup, ce n'est pas notre retour que nous attendons, mais c'est le retour de Jésus sur cette terre. Ce moment où le royaume de Dieu sera pleinement là, où notre salut sera complet. Finalement, quand on y réfléchit un peu, notre situation ressemble quand même beaucoup à celle du peuple exilé. Il t'est proposé, peut-être aujourd'hui, de prendre ce nouveau départ, peut-être pour la première fois, ou peut-être à nouveau. Un nouveau départ qui n'est pas un changement de travail, un changement de lieu de vie, un changement de situation, comme certains de nos contemporains ont voulu le prendre. Mais un nouveau départ vers Dieu, un nouveau départ dans la dépendance à son nom seul, à qui il est et à ses promesses. C'est un départ où, conscient de la grâce que Dieu nous fait, nous essayons de plus en plus de ressembler à Jésus, à l'image de celui qui a parfaitement obéi à la volonté du Père, qui a prié et qui a fait le bien pour ceux qui l'entouraient, qui a été missionnaire à l'endroit où il se trouvait. Voilà le message pour nous. Prenons ce nouveau départ vers Dieu et cherchons à ressembler chaque jour un peu plus à Jésus-Christ, en étant conscients de la grâce que Dieu nous fait. Je vous invite simplement à un temps de silence pour que nous puissions méditer sur ce que nous venons d'entendre. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais. Merci parce que, au travers de cette lettre que tu as fait envoyer par Jérémie au peuple qui était exilé, tu nous rappelles que même si une condamnation peut peser sur nous et pèse sur nous, ta grâce vient surpasser toute cette condamnation. Ta grâce vient effacer cette condamnation. Merci Seigneur parce que tu t'es offert à la croix et en t'offrant à la croix, tu as pris sur toi cette condamnation qui pesait sur nous. Tu as pris notre place pour que nous puissions vivre dans cette grâce. Donne-nous de chaque jour avoir conscience de cette grâce que tu nous fais, pour que nous puissions jour après jour prendre ce nouveau départ que tu nous proposes, ce nouveau départ avec toi, pour toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.